Chapitre 6. Juin 2017. Kim attache Noah dans le siège auto et lui donne l'un de ses livres en tissu. Ryan s'assied à côté de lui sur la banquette arrière, pendant que Kim s'installe au volant et tape l'adresse dans le GPS de son portable. « Les cendres », annonce-t-elle en le tapotant sur l'écran. « C'est à 1500 mètres d'ici. Je me demande pourquoi je n'en avais jamais entendu parler. » Elle lance le GPS et sort de l'impasse calme où elle habite depuis ses 21 ans. Elle se met à fredonner d'un air distrait. Il ne faudrait pas que Noah ou Ryan devinent l'angoisse qui monte en elle. Il parcourt les routes mouchetées de lumière qui relient Upfield Common à Menton, la ville la plus proche. Juste avant le rond-point qui marque la sortie du village, le GPS signale un virage serré à droite. Le panneau est caché par un imposant arbre aux papillons, mais Kim distingue l'indication « Upley Fold, 1 km ». C'est une route étroite. Kim conduit lentement au cas où un autre véhicule déboulerait en face. Il est presque 16 heures, le soleil brille haut dans le ciel. Elle jette un coup d'œil dans son rétroviseur. « Tu pourrais baisser le pare-soleil du côté de Noah ? Il a les rayons en pleine figure, là. » Ryan se penche au-dessus du bébé et s'exécute. Noah lui montre quelque chose dans son livre et essaie de lui dire ce que c'est, mais il n'a pas encore appris à parler. « Oui, c'est le cochon, c'est bien Noah !» l'encourage son oncle. Le GPS lui indique de prendre la prochaine à droite. Kim a du mal à croire que la route se poursuive à cet endroit. Pourtant, un chemin apparaît. C'est une allée séparée en deux par une ligne d'herbe verte. Les haies sont plus basses, si bien que Kim peut voir les éblouissants champs de colza, les silhouettes de quelques vaches, et au loin, un hameau composé d'une poignée de maisons. Après quelques minutes, elle s'arrête devant un grand portail métallique qui protège l'accès à une allée de gravier donnant plein sud, et où le nom Les Cendres est inscrit en fer forgé. Loin, derrière le rideau d'arbres, elle croit deviner le sommet d'une tourelle. Kim éteint le moteur et range son téléphone dans son sac. « Et maintenant, on fait quoi ?» lui demande son fils. Kim cherche des yeux un interphone, en vain. Il y a un petit passage sur le côté du portail. Elle sort du coffre la poussette de Noah et la déplie tout en chassant les moucherons qui volent autour de sa tête. « On va marcher », répond-elle en débouclant la ceinture de Noah. Ryan lance une recherche internet sur les cendres pendant qu'ils avancent et commente ce qu'il lit au fur et à mesure. Kim lui est reconnaissante de l'attirer de ses pensées. « Le manoir a été construit en 1643. »« Waouh ! 1643 ? Mais la majeure partie de la bâtisse a brûlé dans un grand incendie quelques années plus tard. Pendant 70 ans, il n'est resté que des décombres, ce qui a valu son nom à ce lieu. L'aile géorgienne date de 1721, et l'aile victorienne a été ajoutée à la fin du 19e siècle par le propriétaire d'une plantation de café nommée Frédéric de Thames qui... Oh là là ! Il s'interrompt et observe attentivement son écran. Qui a eu au moins 38 enfants en Colombie et 7 en Angleterre et qui a succombé à la grippe espagnole à l'âge de 41 ans. Sa dernière femme, Carolina de Thames, a hérité du domaine. Elle n'avait que 20 ans à sa mort et c'est son fils Lorenz qui en a hérité après elle. En 1931, trois de ses demi-frères ont tenté de le faire assassiner, mais le tueur qu'ils avaient engagé a marché sur un piège à loup dans les bois et n'a été découvert que 6 jours plus tard. Le corps en partie dévoré par les bêtes sauvages et les yeux becquetés par les corneilles. On a retrouvé dans son manteau l'ordre d'assassinat. Les trois comploteurs ont été envoyés en prison, et Lorenz a vécu dans la maison jusqu'à sa mort en 1998. Comme il n'avait pas d'héritier, la propriété a été mise en vente et acquise en 2002 pour presque 2 millions de livres. Kim scrute le sol et les taillis aux alentours, espérant déceler une trace de sa fille. Avant de partir, elle a contacté les trois compagnies de taxi des environs. Mais aucune d'elles n'a effectué la moindre course depuis les cendres la nuit précédente. Il marche une dizaine de minutes, puis le manoir apparaît enfin. Il est conforme à ce que Kim pouvait imaginer en écoutant les commentaires de Ryan. Les trois ailes sont inspirées de styles architecturaux très différents, mais forment pourtant un ensemble harmonieux autour de la cour centrale. Le soleil se reflète sur le plomb des fenêtres à croisillons de l'aile gauche et les vitres des fenêtres à guillotine de l'aile victorienne. L'édifice devrait être disgracieux. Mais contre toute attente, c'est absolument splendide. Sur le côté de la demeure sont stationnées 4 voitures et une golfette. Kim entend des gens plonger dans une piscine. Ryan l'aide à hisser la poussette de Noah en haut des marches du perron, et Kim sonne à la porte. Un jeune homme ouvre. Il est suivi par un imposant Saint-Bernard qui s'écroule à ses pieds, haletant. Il est torse nu, pack de bière et serviette à la main. Il dévisage Kim, Noah, Ryan, puis son regard revient sur Kim. Bonjour.
Bonjour.
J'aurais voulu parler à Scarlett ou à ses parents s'ils sont là. Je m'appelle Kim. Oui, bien sûr. Attendez un instant. » Il se retourne. « Maman !» s'écrie-t-il. « Il y a quelqu'un pour toi !» Derrière lui, Kim devine un escalier en pierre avec un tapis rayé courant au centre. Elle voit des tableaux d'art moderne et des appliques murales sophistiquées, puis apparaît une femme portant une longue robe d'été blanche et des sandales assorties. Le chien se remet difficilement sur ses pattes pour accueillir sa maîtresse, qui contemple Kim d'un air interrogateur. Le jeune homme sourit et s'éclipse. « Oui, je suis désolée de vous déranger comme ça un samedi. » La femme jette un coup d'œil à la cour de gravier. « Comment êtes-vous arrivé jusqu'ici ? On s'est garé à la grille et on a marché. Mais c'est si loin, vous auriez dû sonner. » J'y ai pensé, mais je n'ai pas trouvé de sonnette. Ah oui, c'est vrai. Il y a un détecteur de mouvement, il faut se placer dessus. Beaucoup de gens ne le voient pas. Vous auriez dû appeler. Je n'avais pas votre numéro. Enfin, j'avais celui de Scarlett, mais je ne pensais pas que la maison était si loin. Ce n'est pas grave. Je cherche ma fille. Ah, vous êtes la maman de Mimi ? Elle est rentrée ce matin, il me semble. Non, je suis la mère de Talula. Elle était ici hier soir, n'est-ce pas ? Talula ? La femme caresse machinalement la tête du chien d'une main ornée d'une épaisse alliance. « Non, ça ne me dit rien. Je ne connais pas de ta Lula. Lula, peut-être ? » Kim a toujours détesté ce surnom, mais c'est ainsi que les amis de sa fille l'appellent, et elle s'est donc fait une raison. « Non, » répond la femme en secouant le menton. « Je ne la connais pas. Vous êtes sûre qu'elle était ici ? » Kim a chaud et elle est nerveuse. Il n'y a pas d'ombre sur le perron, et le soleil tape. La sueur perle sur sa peau, et Kim ressent une certaine animosité envers cette femme dans sa robe blanche impeccable, avec ses cheveux bien brossés, son teint frais et ce timbre hautain qui semble suggérer que Kim s'est trompé d'adresse. « Oui, » insiste Kim d'un ton qu'elle veut cordial. « J'ai parlé à votre fille ce matin. Elle m'a confirmé que Talula et son petit ami Zach étaient ici hier soir et qu'ils sont repartis en taxi vers 3h du matin. Mais j'ai appelé toutes les compagnies du coin et l'on m'a assuré qu'il n'y avait eu aucune course dans le secteur cette nuit. Il est presque 16h et ma fille n'est toujours pas rentrée. Et vous voyez, » reprend-elle en désignant Noah dans sa poussette, « pour rien au monde, elle n'abandonnerait son fils. Jamais. » Sa voix est sur le point de se briser. Elle inspire profondément pour s'empêcher de pleurer. La mère de Scarlett paraît imperméable à ses émotions. « Je suis désolée. Pourriez-vous me rappeler votre nom ?»« Kim, mon fils Ryan, et Noah, mon petit-fils. » »« Vous êtes grand-mère ? Mais vous avez l'air si jeune. Moi, c'est Joss. » Elle lui tend la main. « Venez donc, on va demander à Scarlett de nous expliquer tout ça. Suivez-moi. » Il traverse la cour vers une grande porte en fer forgé fixée à un vieux mur en briques envahi de lierre. Le gros chien les escorte d'un pas pesant. La cour est décorée de petites sculptures en pierre blanche montées sur des socles en plexiglas. Il s'engage sur un chemin d'allée entre des pots en céramique bleu cobalt où s'épanouissent des plantes majestueuses, puis tourne à l'angle de la maison. Devant eux, la piscine. Elle est creusée au milieu d'une terrasse de marbre crème. Sur l'un des côtés se dresse une pergola couverte de voiles sous laquelle se trouve une grande méridienne beige. Des chaises longues en teck aux coussins immaculés sont disposées autour du bassin. Au centre de la piscine, une fille élancée aux cheveux verts anis portant un bikini noir se laisse dériver sur un flamant rose gonflable. Elle détaille Kim et son étrange délégation, puis ouvre grand la bouche quand elle finit par comprendre. « Talula !» lui lance sa mère en plaçant la main en visière devant ses yeux pour les protéger des reflets du soleil sur l'eau. « Apparemment, elle a passé la soirée ici. Tu sais où elle est ?» Scarlett s'approche du bord de la piscine, descend de la bouée et s'enroule dans une serviette noire. Puis, elle s'installe à une table ronde en teck sur laquelle trône d'élégants photos forts avec des bougies blanches. Kim s'assied en face d'elle. « Tout à l'heure, tu m'as dit que tu ne savais pas où ils étaient allés. Que Talula avait été malade et qu'ils étaient partis en taxi. Mais aucun véhicule ne s'est déplacé ici la nuit dernière. Est-ce que tu te souviens d'autre chose qui pourrait nous permettre de les retrouver ?» Scarlett joue avec la cire de l'une des bougies, évitant le regard de Kim. « Franchement, je vous jure, je ne sais rien de plus. Tu les as vus monter à bord du taxi ? Non, j'étais ici avec Mimi. Zach est sorti de la maison, il nous a dit que Lula était pas bien et qu'ils allaient rentrer, que leur taxi était en route. Il a dit qu'un taxi arrivait, ou bien il a dit qu'il allait en appeler un. » Scarlett hausse ses épaules anguleuses. Kim observe l'eau de la piscine sur sa peau. Les gouttes scintillantes dévalent le long de ses bras. « Je crois qu'il a dit que le taxi arrivait. » À la périphérie de son champ de vision, Kim voit Ryan se balancer d'un pied sur l'autre. Elle tire une chaise vers lui et il s'assied en rapprochant la poussette de Noah. « D'après toi, est-ce qu'ils auraient pu décider de rentrer à pied si aucun taxi n'était disponible ?»« Ouais, j'imagine. » Kim se tourne vers le frère de Scarlett, avachi sur une chaise longue de l'autre côté de la piscine, une bouteille de bière calée entre ses genoux. « Tu étais là hier soir ?» lui lance-t-elle. Il fait non du doigt. « Je suis rentré ce matin, » marmonne-t-il sur la défensive. Kim soupire. « S'ils sont partis à pied, où est-ce qu'ils ont pu atterrir ?» Scarlett hausse à nouveau les épaules. « Tout dépend de leur point de départ. S'ils ont remonté l'allée, ils sont probablement arrivés sur la route. Ou à Upley Fold s'ils se sont trompés de sens. S'ils ont pris le chemin derrière la maison, ils ont sans doute débouché sur Upfield Common. Quel chemin ? C'est par là ? » répond-elle en désignant d'un geste vague l'espace derrière elle. Kim tend le cou. Elle ne voit que de la pelouse, des parterres de fleurs, des haies, des allées de gravier, des chemins d'allées, un cadran solaire et des charmilles. Où ça ? Un peu plus loin. Il y a un chemin à travers les bois qui mène à Upfield Common, près de Maple. Je le prenais parfois pour aller en cours. Le lycée est loin. Joss intervient. À plus d'un kilomètre. Mais je ne le recommande pas, surtout avec un bébé. Il faut bien connaître les environs, sinon on se perd. Tallulah connaît l'existence de ce chemin. Je pense pas, dit Scarlett. Elle n'est jamais venue ici avant, donc y a pas de raison qu'elle le connaisse. Qui d'autre était présent à la soirée d'hier ? Reprend Kim. Moi, Tallulah, son mec, Mimi. Lexi Mulligan est passée aussi. Elle vit à Maple House. Sa mère, Kerri-Anne, en est l'intendante. Vous la connaissez peut-être ? Kim hoche la tête. Bien sûr qu'elle la connaît, comme tous les habitants d'Upfield Common. Un personnage. Sa fille a genre 25 ans, mais elle est partie tôt. Elle conduisait. Elle est rentrée avec Liam. Et après ça, il n'y avait plus que toi, Tallulah, Zach et... Mimi ?
Ouais.
Et tes parents ?
Maman était là, mais elle dormait. Papa est en voyage d'affaires.
Kim pivote vers Joss, qui écoute la conversation, assise au bord de l'eau. Vous n'avez pas de caméra de surveillance par hasard ? Joss acquiesce.
Si, plein, mais je ne sais pas du tout comment elle fonctionne.
Elle se retourne vers son fils.
Rex, tu sais comment on peut visionner les images des caméras ?
Rex fait la grimace. Pas vraiment. Je crois qu'il y a un panneau de contrôle dans le bureau de papa, mais je ne l'ai jamais utilisé.
Ça t'ennuierait qu'on essaie ?
S'enquiert Kim. En un instant, l'atmosphère se crispe. Jusque-là, Kim n'était rien de plus qu'une distraction pour eux, tant qu'elle obéissait à leurs règles du jeu. Maintenant, elle demande à entrer chez eux, à ouvrir les portes, à obtenir l'enregistrement des caméras. Kim les voit échanger un regard. Puis Joss se lève et s'approche d'elle.
« Je vais vous dire, plutôt que de tous s'entasser dans le bureau de Martin, Rex s'en occupera tout à l'heure. Il appellera son père pour savoir comment procéder pour récupérer la vidéo. Scarlett a votre numéro, on vous appellera si on trouve quelque chose d'intéressant. »
Kim a encore tant de questions sans réponse. Elle sent bien contente de la faire décamper, mais elle ne peut s'y résoudre. « Tu as dit que c'était la première fois que Tallulah venait ici, » insiste-t-elle. « Et au téléphone, tu m'as dit que c'était juste une connaissance et que tu n'étais même pas au courant qu'elle avait un fils. Alors, pourquoi était-elle là hier soir ?»
Scarlett s'essuie les oreilles, la serviette jetée sur les épaules comme un châle. « On parle vite fait quand on se voit à Menton. Hier soir, je l'ai rencontrée au pub, et comme on avait un peu bu, je l'ai invitée. »
Kim observe à nouveau cette jeune femme élancée, au visage ciselé, qui adresse parfois la parole à sa fille. Les détails se gravent dans sa mémoire. Les piercings qui brillent au soleil, le tatouage sur l'omoplate, les orteils parfaitement vernis. Son regard s'arrête sur une marque sombre sur le côté de son pied. Un petit tatouage, deux lettres qu'elle peine à distinguer. Le symbole TM. La main de Scarlett se pose immédiatement sur le dessin, comme si elle voulait chasser une mouche. Leurs regards se croisent un instant. Un instant qui suffit à Kim pour comprendre que la jeune fille est sur la défensive. Elle remonte la bandoulière de son sac sur son épaule.
« Est-ce que je pourrais parler à Mimi ? Tu pourrais me donner son numéro ? Elle n'aura rien de plus à vous dire. Je voudrais quand même discuter avec elle. »« Ok, dans ce cas, je lui demanderai de vous appeler. »
Une minute plus tard, il repasse la porte en fer forgé et traverse la cour. Sous une arche de passiflore, Joss, son immense chien allongé à ses pieds, leur adresse un signe de la main. Ils ont à peine fait quelques pas dans l'allée que Kim entend des remous à la surface de la piscine. Quelqu'un vient de s'élancer avec un éclat de rire dans ses flots bleus et froids.